بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إخوة الإيمان، aujourd'hui nous allons commencer le cours sur la lecture et l'explication du livre du savantissime Al-Sheikh Abi Abdel Mu'iz Muhammad Ali Firkous ou Farkous Hafidahullah wa saddadah wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah. Livre intitulé Al-Ikhlasu Barakatul Ilmi wa Sirru Tawfiqi. La sincérité, Al-Ikhlas, la sincérité, Barakatul Ilm, la baraka, la bénédiction de la science et le secret de la réussite. C'est ça le titre de ce livret que nous allons étudier, que nous allons lire et essayer de commenter. Et Cheikh Firkous, Rihanat al-Jazair, غني عن التعريف لدى طلبة العلم لا سيما السلفيين. Le cher Firkous, qui représente la perle de l'Algérie, comme certains le surnom, est connu des étudiants à la quête du savoir, surtout les étudiants salafis, parce que le cheikh sans aucun doute fait partie des portes flambeaux de la da'wa salafia de cette époque. Nous prions donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité et qu'il nous facilite la tâche dans cette lourde mission qui est celle de ressortir en nos propres termes ce qu'a voulu le cheikh, ou alors ce qu'a voulu dire le cheikh ici dans ce livre. Qala rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc le cheikh a commencé ce livre par le basmala, ensuite par ces deux versets, avant de passer à l'introduction. Et nous n'allons pas nous attarder sur ces deux versets ici, parce que ces deux versets viendront dans le livre et nous aurons à les expliquer. Muqaddima, introduction. Qala rahimahullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Cette introduction est ce que les savants ont appelé khutbatul haja. Et cette appellation vient des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans certains récits authentiques. Et ça s'appelle khutbatul haja, la khutba du besoin. Ça veut dire que dans la sunna, il est recommandé que chaque besoin, que l'on commence chaque besoin par cette khutba. Chaque assise importante, chaque prise de parole importante, que l'on la commence par cette khutba. Parce que cette khutba est importante et pleine d'enseignements. Et si le croyant commence sa prise de parole dans une assemblée, dans une assise, en cas de besoin, par cette khutba, en méditant des enseignements que, ou alors en méditant sur les enseignements que renferme cette khutba, alors sera lui serait utile, ainsi qu'à ceux en sa présence. Dans cette khutba, nous avons la première partie qui est constituée des louanges à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Celui que nous louons. ونستعينه et c'est de lui que nous implorons le secours. ونستغفره et nous implorons son pardon. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا et nous cherchons refuge auprès d'Allah سبحانه وتعالى contre les maux de nos âmes. ومن سيئات أعمالنا ainsi que les maux de nos actes. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut guider. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Il est unique sans associé. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Voilà de quoi est constituée cette première partie de l'introduction. Donc, si le croyant commence à prise des paroles dans une assemblée, par cette introduction, tout en méditant de ces paroles, lui sera utile et profitable. Parce que ces khutbas lui rappellent, ou alors lui rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le connecte à Allah subhanahu wa ta'ala sur ce sur quoi il est en train de se lancer. Ça lui rappelle de l'importance de la recherche de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en réalité, il ne peut réussir que si Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste. C'est pour ça qu'il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les maux de sa propre personne ainsi que de ceux qui l'entourent. Ou alors que de celles qui l'entourent. Ainsi que les maux qui émanent de leurs œuvres. Dans cette première partie, il se rappelle également du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus absolu, ou alors de ce grand bienfait qui fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus absolus, qui n'est d'autre que celle de la guidance. Et lorsque les habitants du paradis seront au paradis, se rappelleront de ces bienfaits. Et qu'est-ce qu'ils diront? Non? Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés pour ce sur quoi nous sommes aujourd'hui, vers ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Et nous ne serions pas du nombre des guidés si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Donc dans cette première partie de l'introduction dans Khutbat al-Haja, l'on se rappelle de ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Il se rappelle également de cette réalité, qu'en réalité celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, égale, nul ne peut guider. Et c'est pour ça que lorsqu'il se rappelle de cette réalité, cela suscite en lui la peur. Et voilà qu'il atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a pas d'associé, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. C'est comme si, après s'être rappelé de ces réalités, le serviteur prend l'engagement de se mettre sur le droit chemin pour pouvoir bénéficier de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être à l'abri de l'égarement. Et ce, en se rappelant du but de la création, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant le culte sincère et exclusif. Et ce, en suivant les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abduhu, qui est son serviteur, c'est-à-dire qui ne doit pas être adoré, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur. C'est ça l'importance de la mention de son statut, qu'il est un serviteur et le messager. Un serviteur qui ne doit être adoré. Parce que la seule divinité digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur. Mais seulement, il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à qui on ne se doit pas de désobéir. Celui qu'on se doit de suivre pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie de cette khutba est composée de trois versets qui parlent de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, à cause de l'importance de la crainte. Parce qu'en réalité, la vie ici sur terre ainsi que dans l'au-delà ne peut avoir de sens que si on l'amène selon la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme n'est rien sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché toutes les voies de la réussite à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous a fait comprendre que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui accordera une issue favorable. Et ce, en toute chose. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable en toute chose. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'une importance capitale. Ne voyez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que des pieux? Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que des pieux. Donc, pour que nos actes soient acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le minimum de crainte nécessaire pour qu'un acte soit validé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte qu'il faut dans cet acte précis. Et cette crainte est basée sur la sincérité et le suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Talq ibn Habib, il a défini la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant « Anta amala bi'ata'atillah ». C'est le fait que tu œuvres pour Allah. Anta amala bi ta'atillah, c'est le fait que tu œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala ala nourin min Allah, en suivant la lumière venant d'Allah. Là on a la sincérité. En suivant la lumière venant d'Allah, donc tu dois suivre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tarju thawab Allah, en espérant le mérite promis par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui se soumettent à lui. Wa anta turka ma'siyat Allah. C'est abandonner le péché ala nourin min Allah, en suivant la lumière émanante d'Allah subhanahu wa ta'ala, khifat 'adabillah, tout en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ce verset nous atteste ou alors nous témoigne de l'importance de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu taqullah » « Oh vous qui avez cru, craignez Allah » Le musulman, le croyant, a besoin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Oh vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint »« Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux croyants de ne mourir qu'en pleine soumission. Et il lui a tracé la voie lui permettant de mourir. Il l'a orienté vers la voie lui permettant de mourir tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit de mourir. C'est la voie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci atteste, témoigne de l'importance de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les hommes globalement. Ya ayyuhan nas, ô hommes, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une âme. وخلق منها زوجها et à partir de cette âme a créé son âme sœur, sa consœur. وبس منهما رجالا كثيرا ونساء et à partir de ces deux âmes a créé les hommes et les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala ici a interpellé les hommes globalement, leur a rappelé de sa seigneurie et de leur origine. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui que vous implorez. Et craignez la rupture des liens familiaux. إن الله كان عليكم رقيبا. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille. Dans le troisième verset, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et dites la parole de droiture. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie vos actes. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يغفر لكم الله سبحانه وتعالى pardon vos péchés et quiconque obéit à Allah ainsi qu'à son messager aura certes réussi d'une grande réussite. Et méditez sur le lien entre ces trois versets. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants et leur a ordonné de le craindre comme il doit être craint et de ne mourir qu'en pleine soumission. Dans le deuxième verset, il a interpellé les hommes globalement. Et dans ce troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants et leur a ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de dire la parole de droiture. C'est comme si, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre qu'il n'agrée que des pieux, il nous a ouvert une autre porte de miséricorde. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir ordonné, nous avoir fait comprendre qu'il n'agrée que des pieux, il nous a fait également savoir qu'il sait que nous aurons des manquements. Taïb, pour agréer nos actes, malgré ces manquements, parce que, quels que soient nos efforts, nous aurons toujours des manquements et nous arrivera toujours de manquer d'être pieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert une autre porte. En disant, oh vous qui avez cru, craignez Allah et dites la parole des droitures. C'est quoi la conséquence? Yuslih lakum a'malakum. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie vos actes. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que des pieux, et qu'il est établi qu'il nous arrivera quelquefois de manquer d'être pieux, alors, saisissons donc cette occasion. Contrôlons notre langue et disons la bonne parole, la parole de droiture, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos actes. Parce que si Allah purifie nos actes, il agréera nos actes. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et nous pardonnera nos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager aura certes réussi d'une grande réussite. Voici la deuxième partie de la khutbatul haja. Et inshallah, nous allons nous arrêter ici pour parler de la troisième partie et ensuite passer dans ou alors commencer à expliquer les propos même du cheikh en dehors de cette khutbatul haja. هذا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc suite à la demande des frères, nous allons poursuivre parce que nous avons cru que les frères étaient fatigués, mais apparemment c'était une mauvaise impression. طيب, dans la suite de la khutba, le prophète sallam dit, parce que cette khutbatul haja a été rapportée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il enseignait même aux compagnons, comme il leur enseignait cette khutbatul haja, comme il leur enseignait le Coran. C'est pour vous dire l'importance de cette khutba. Et c'est pour ça que nous avons pris la peine d'essayer de l'expliquer, même si on ne peut pas tout expliquer de cette khutba. On ne peut pas exposer clairement la quintessence que renferme cette khutba, mais on peut quand même tirer ou alors parler de quelques leçons qu'on peut tirer de cette khutba. قال فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله أكبر. تعملوا. Il faut méditer sur cette parole. Et le lien entre cette parole et les versets précédents. C'est comme si, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé de l'importance de la préservation de la langue et du fait de ne dire que la bonne parole et la parole de droiture et des bienfaits qui en découlent de cela, il nous a orientés vers ce que c'est que réellement la parole de droiture. فقال فإن أصدق الحديث كتاب الله. La parole la plus véridique est le livre d'Allah. C'est comme si indirectement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait, si vous voulez dire la parole de droiture, ne dites que ce qui est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne parlez que du kitab et de la sunna. Ou alors, ne parlez que de ce qui est conforme au kitab et à la sunna. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, asdaqul kalam, c'est la parole la plus véridique. Wa khayr al-hadi. Hadju Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure guidée et la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Maintenant que tu es croyant, que tu as besoin de dire la parole de droiture pour que tes œuvres soient purifiées et agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tes péchés soient pardonnés. Maintenant que tu sais que quiconque suit Allah et son messager obéit à Allah ainsi qu'à son messager aura réussi d'une grande réussite. Et que tu as appris que la parole la plus véridique est la parole d'Allah, le livre d'Allah. Ce qui implique que toute parole conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des paroles les plus véridique. Et que la meilleure guidée est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant que tu sais ceci, tu connais tout le bien. Et après que tu connais tous ces biens, tu te dois de connaître le mal aussi. Parce qu'une personne peut connaître le bien, mais sans connaître le mal, et tomber dans le mal parce qu'il ne connaît pas le mal. C'est pour ça que dans le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu, il a dit: كان الناس يسألون النبي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et je l'ai interrogé par rapport au mal, de peur que le mal ne m'atteigne. Donc, après que le croyant connaît le bien, après qu'il ait appris le bien, c'est que le bien, et que c'est toute parole conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute parole et tout acte suivant la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui incombe également de connaître ce que le mal. Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître le bien et de faire le bien, mais il faut également connaître le mal et s'en écarter. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis et nous a mis en garde contre le mal. Il a pointé clairement. Faqala, wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et la pire des choses en islam, ce sont les choses nouvellement créées. Wa kulla muhdathatin bid'a. Et toute chose nouvellement créée en islam est innovation. Toute chose nouvellement créée en islam et innovation. Comment faire pour savoir qu'une chose a été nouvellement créée? C'est lorsque cette chose n'a pas été légiférée par Allah, enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et mise en pratique par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute pratique n'étant pas légiférée par Allah, enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pratiquée par les compagnons, est innovation. Toute pratique religieuse. C'est pour ça que, comme a dit Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir, « Wa ahl sunna yakuloun » كل عمل نعم يقولون في كل عمل لم يثبت عن الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه. Les adeptes de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent le prophète Muhammad sallam comme il se doit, disent: pour chaque acte qui a été nouvellement créé, que si c'était un bien, les compagnons du prophète sallam allaient nous précéder dans ce bien. Parce qu'ils n'ont rien laissé. C'est pour ça qu'ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et après qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, il a ordonné à ceux qui viendront après eux de les suivre. قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Toute chose nouvellement créée en islam est innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est égarement. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été clair, explicite. Cette parole est limpide et n'est prête à aucune autre interprétation que celle qu'elle indique en elle-même. Toute innovation est égarement. Quelle que soit la beauté de cette innovation et quelle que soit sa taille, c'est un égarement. Donc, en matière d'innovation, il n'y a pas d'exception. Maafi istisna. Parce que le prophète sallam ammama faqala wa kull bid'atin dalalatun. Et toute innovation est égarement. Ensuite, il a dit, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Et tout égarement est en enfer. En matière d'égarement, il n'y a pas d'exception aussi. Il n'y a pas un égarement qui va se retrouver au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, la pire des choses en islam et le pire des mots que nous devons éviter, ce sont les innovations. Voilà de quoi est constituée la khutbatul haja. Et en méditant sur le sens de cette khutba, on se rend compte que c'est une khutba importante et que nous devons de la maîtriser et de la mémoriser et de l'enseigner comme le prophète Mohammed sallam le faisait à ses compagnons. Il enseignait cette khutba à ses compagnons comme il leur enseignait le Coran. Donc nous devons transmettre cette khutba aux musulmans. Ainsi que le sens de ces mots, ce qu'elle renferme, cette khutba, comme quintessence, nous devons essayer de l'exposer aux musulmans, parce qu'apparemment les musulmans n'ont pas encore compris. Sinon, comment est-ce que quelqu'un peut réciter cette khutba et quelques heures après se retrouver dans des turpitudes? Par exemple, lors des mariages, la sunna, c'est que le marié lui-même lise cette khutba. C'est même ça la sunna. C'est que le marié lui-même lise cette khutba. لِأَنَّ الْحَاجَ هُنَا حَاجَتُهُ. Parce que les besoins ici, ce sont besoins. C'est la personne la plus concernée parmi ceux qui peuvent parler dans l'assemblée. Tu m'as dit, c'est l'arbre. Donc la sunna, c'est que le marié récite lui-même cette khutba. Et s'il ne le fait pas, que c'est lui qui se charge d'attacher le mariage, comme le tuteur de la fille, la récite. S'il ne peut pas le faire, que quelqu'un d'autre le fasse. Combien de fois est-ce qu'on récite cette khutba et que quelques minutes après, on se retrouve dans les innovations? Donc cela nous montre clairement que la majorité de ceux qui récitent cette khutba, parmi nos parents, qui font souvent l'innovation dans la même assise où cette khutba a été lue, n'ont pas compris le sens de cette khutba. N'ont pas compris la quintessence que renferme cette khutba. Et comme nous avons dit, c'est une khutbatul haja. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de commencer ses prises de parole par cette khutba. Une personne qui commence sa prise de parole dans une assemblée par cette khutba fait là un grand rappel à sa propre personne ainsi que ceux qui l'entourent. Mais pourquoi nous récitons, nous voyons que les musulmans récitent cette khutba dans leurs assises, dans leurs prises de parole, et parfois même avant de s'asseoir, ramènent quand même une innovation, commettent quand même une turpitude. Cela est une preuve claire que nous avons besoin d'apprendre, d'étudier et de comprendre le sens de cette parole. Lourde de sens. De ces mots, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. ولا لنا نقف عند هذا الحد الله أعلى وعالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.